Les fouineaux 27 l'unité de la foi. 23 août 2017. Brian Kozurek, pasteur. Ce soir, nous nous pencherons sur la promesse que Dieu nous fait concernant la foi du Fils de Dieu et nous concentrerons nos pensées sur l'unité de la foi. Pour notre texte, nous irons dans Éphésiens 4.11-13 où l'apôtre Paul aborde le sujet de l'unité de la foi. 11 et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Remarquez que cette unité de la foi Néhémie peut venir que de la façon dont Dieu a choisi qu'elle vienne, et s'Esther à travers les 5 dons qu'il a placés dans son Église. Il n'y a pas d'autre moyen pour qu'il vienne, parce que Dieu a lui-même dit que le but de ce quintuple don Esther de faire se produire l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Maintenant, je sais que certains Néhémie croient pas au quintuple ministère et s'Esther parce qu'il semble jusqu'ici qu'ils n'ont pas réussi à amener une unité de la foi dans les gens, mais ils ont été responsables d'un grand nombre de divisions qui se sont produites, plutôt que d'œuvres unificatrices. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu attend de son don, qu'il envoie à l'Église. Ainsi, nous ne devons pas permettre à Satan de porter notre attention sur les échecs du ministère, mais nous devons plutôt porter notre attention sur ce que Dieu a dit du don spécial qu'il a envoyé à son Église. Il doit y avoir un véritable quintuple ministère, peut-être aussi peu que les 5 ministères qu'il cite, qui suscitera cette unité de la foi et unifiera ainsi la véritable épouse de Christ alors qu'ils amèneront aux gens la connaissance du Fils de Dieu. Questions et réponses sur le SO 63-03-24-M22. Est-ce ce que l'épouse de Christ aura? Est-ce ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? 233 bien sûr. S'est-ce ce qui est en train de se passer en ce moment? Vous voyez, l'épouse de Christ. Certainement. C'est-ce le message de l'heure? Vous voyez, l'épouse de Christ. Bien sûr. Elle est-ce composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Pas vrai? L'assemblée dit, Amen. Tirez des accents aigus. C'est Esther l'épouse de Christ. Bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Question et réponse 2, 64-08-23-53. Mais l'épouse, c'est Esther l'élu de Dieu. 54 Il y a 5 fonctions élues de Dieu. Car Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. C'est-à-dire Dieu qui l'a fait. L'homme, lui, il établit des diacres, et ainsi de suite, et tout. Mais, vous voyez, mais Dieu a placé dans l'Église, pour le perfectionnement de l'Église, vous n'arrivez pas à faire la distinction. 55 maintenant. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vous rend témoignage, vous voyez, que cette parole est vraie, la parole pour aujourd'hui, non pas la parole pour Luther, non pas la parole pour Moïse. Nous témoignons que celle-là est la vérité, mais que c'est une autre époque. Je vois cette unité de la foi partout dans le monde alors que la révélation de Jésus-Christ et de la relation qu'il avait avec son Père Esther enseignée. Cela a uni les gens comme rien d'autre Néhémie l'a fait en cette dernière heure. En 2009, lorsque j'ai enseigné cette révélation de Jésus-Christ et la relation qu'il avait avec son Père et comment cela devait influencer les fils de Dieu dans cette grande famille de Dieu, à Choma en Zambie, J'ai reçu un email d'un des pasteurs qui m'a dit que, depuis de bien des années, il y a 8 églises dans la ville de Choma, la deuxième plus grande ville de Zambie, et que depuis toutes les années où ces églises existaient, les pasteurs n'avaient jamais assisté à une conférence ensemble. En fait, il a dit que quand un pasteur marchait dans la rue et qu'un autre pasteur venait dans la direction opposée du même côté de la rue, l'un d'eux se dirigeait par inadvertance de l'autre côté de la rue, pour éviter d'avoir à parler à l'autre pasteur. Voilà à quel point le ministère était devenu hostile l'un envers l'autre. Mais après que nous ayons passé 3 jours, avec plusieurs réunions par jour, leur montrant que la relation que Jésus avait avec son Père était la même relation que chaque fils de Dieu doit avoir avec le Père, de même que Jésus, le frère aîné de cette vaste famille de frères, était le modèle pour tous les fils. Dans cet email que j'ai reçu, le frère m'a dit que les frères se sont étreints en pleurant après la fin des réunions, et ont décidé, un mois plus tard, que toutes les églises coopéreraient dans un réveil à l'échelle de la ville. Miracle après miracle se succédèrent alors que les gens qui étaient alités depuis des années sont sortis de leur lit et leur santé ont été restaurées. C'est ce que l'unité de la foi est censée produire. Par conséquent, si nous prétendons enseigner la doctrine de Christ, mais que nous n'enseignons pas que la relation du Fils de Dieu avec le Père est également destinée à tous les fils de Dieu, alors il n'est pas étonnant que la doctrine de Christ, enseignée de façon théologique, finisse par diviser l'unité entre les églises plutôt que de les unifier en Christ. Laissez-moi vous lire la lettre que j'ai reçue des ministres de Choma, en Zambie, après que nos réunions aient pris fin et que je sois rentré chez moi. Rapport sur la conférence ministérielle internationale tenue du 11 au 12 juillet 2009 dans la ville de Choma, en Zambie, rapport A, l'intention de Frère Brian, rapport rédigé par les pasteurs de Choma, Zambie. Préambule. La conférence ministérielle internationale s'est tenue principalement pour clarifier la doctrine de la divinité qui n'est pas comprise par de nombreux ministres dans le message. Impact du sujet. Le pasteur Brian Kozurek des États-Unis, l'invité d'honneur, a systématiquement souligné la doctrine unitaire et la doctrine binitaire en sorte que les participants ont compris la différence entre les deux. À la fin, les participants ont pu comprendre comment Jésus-Christ était une personne double. Sur terre, il a servi comme un homme et comme Dieu. Le salut, la rédemption, le pardon du péché, nous obtenons tout par Jésus-Christ. Questions et réponses. Du temps a été accordé aux participants pour poser des questions. Un large éventail de questions a été posé couvrant différents secteurs du message. Le pasteur Brian y a répondu à la satisfaction de ceux qui les ont posés. Commentaire personnel. Pasteur G. Si qu'elle en dut. Cela valait la peine d'avoir eu cette conférence parce qu'elle a élargi ma compréhension de la divinité. Pasteur C. Mawino. Afin de prouver que c'était la volonté de Dieu que frère Brian vienne en Zambie, je donnerai les témoignages suivants. Nous avons passé une nuit chez une amie à Chipata qui est catholique et qui n'aimait croyait ce message. Mais en accueillant frère Brian et l'équipe dans sa maison, Dieu l'a visité en guérissant son corps malade et en opérant une percée financière. Ces marchandises qui étaient détenues au service de douane pendant 3 mois ont été libérées après une prière de l'homme de Dieu. Elle m'a demandé d'aller prêcher à sa famille et de la conduire davantage dans la parole de Dieu. Sur le chemin de Choma où la conférence avait lieu, nous avons eu une panne avec la voiture que nous utilisions. Tout cela était pour la gloire de Dieu afin de tester notre foi et notre fidélité. C'était si merveilleux que Dieu est venu à temps pour nous aider. Même si nous avons passé plus d'heures que prévu pour atteindre Choma. Cela nous a pris 10 heures au lieu de 3 heures pour arriver Choma. Là encore, Le ministère de frère Brian fut testé, tout comme chaque enfant de Dieu Esther testé, car c'était la première fois qu'il venait en Zambie et il a eu des problèmes en chemin. Cela montre que le diable n'était pas content à cause des nombreuses âmes qui attendaient la délivrance et la révélation de Dieu qui était prêchée. Nous remercions Dieu pour tout. Pasteur Jimmy Mazaba, au nom de mon église et de ma famille, nous remercions Dieu pour la visite de frère Brian. Cela m'a ouvert les yeux. Merci Pasteur Mawino de m'avoir invité. Pasteur Austin Chinachis. Pasteur, nous remercions Dieu que vous ayez organisé une telle réunion. Que Dieu vous bénisse, pour un tel sacrifice. Expérience, pendant la conférence, il était intéressant d'observer les pasteurs de différentes congrégations qui Naomi s'était jamais côtoyé auparavant, être en mesure de s'embrasser. Cela peut être interprété comme signifiant que Dieu était présent, approuvant ainsi la réunion. Avis général de tous les participants. De l'avis général des participants, il, le pasteur Brian, devrait être réinvité dans les plus brefs délais à venir faire plus de lumière sur ce sujet. Nombre de participants. La conférence a suscité beaucoup d'intérêt de la part des ministres à l'intérieur comme à l'extérieur de la Zambie. Ceux qui sont venus venaient du Malawi, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Zimbabwe, de la Nouvelle-Zélande, et des États-Unis, et toutes les régions du pays étaient représentées. Dans l'ensemble, il y avait 76 frères ministres qui ont assisté à la conférence. Compilé par le pasteur Gilbert Sikalundu. 1. Ainsi, ce soir, nous étudierons cette déclaration complexe que l'apôtre Paul a faite dans Éphésiens 4 concernant l'unité de la foi. Il y a plusieurs points dans cette seule déclaration que l'apôtre Paul fait ici que nous devons comprendre afin qu'elle opère l'unité de la foi dans l'épouse de Christ. Mais pour comprendre ce qui Esther dit dans ce passage des Écritures, nous devons reculer de quelques versets pour mieux comprendre ce qu'il essaie de nous dire. En commençant au verset 1, nous lisons, Éphésiens 4.1 « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Le mot « vocation » a été traduit d'un mot grec qui signifie l'appel, ou l'invitation par laquelle vous êtes convié. Et remarquez que Paul se dit être un prisonnier du Seigneur. Une copie originale de ce rapport peut être lue dans la version anglaise de ce sermon. Note du traducteur. Maintenant, le mot prisonnier utilisé ici a été traduit du mot grec de smio, ce qui signifie être lié ou captif. L'apôtre Paul Néhémie dit pas qu'il Esther un prisonnier comme s'il avait fait quelque chose de mal acquis et donc qu'il a été mis prison pour être puni. Mais ce qu'il nous dit plutôt, c'est Esther que, volontairement, il s'Esther lui au Seigneur. En d'autres termes, Paul nous dit qu'il s'Esther fait volontiers un captif de ce que Dieu Esther en train de faire. Pour exprimer cette pensée autrement, Paul nous dit que tout ce qu'il vise n'Esther pas le monde ni les choses du monde mais ce que Dieu fait en son heure. Par conséquent, il peut sincèrement proclamer qu'il Esther un captif à l'écoute du Seigneur, lié à ce que Dieu fait. Puis il déclare, je vous en supplie, ce qui signifie je vous exhorte ou je vous encourage à marcher d'une manière digne de l'invitation par laquelle vous êtes convié. Remarquez qu'il dit, vous avez une invitation ou un appel de Dieu, et votre marche doit convenir à cet appel. Le mot digne utilisé ici a été traduit du mot grec axio, qui signifie convenable ou approprié, ou d'une manière qui convient à un tel appel. Dans Romains 12.1-5 ce même apôtre a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui se conforme aux critères de Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, Dieu n'aime, il vous demande rien de déraisonnable. N'essayez donc pas d'en faire une chose déraisonnable. Lâchez simplement prise et laissez, Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1.6, comme l'apôtre Paul l'a aussi dit dans Philippiens 2.13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, si c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire, et que c'est le même Dieu qui a commencé l'œuvre qui la rendra parfaite, alors ce n'est pas vous qui la rendrez parfaite, mais c'est plutôt Dieu en vous qui la rendra parfaite. Et Paul appelle cela votre culte ou sacrifice raisonnable. Alors, quel est le sacrifice impliqué ici? De simplement prêter votre corps à Dieu. Nous voyons de quoi Paul parle dans cette citation du sermon de frère Branham, le véritable saut de Pâques, dimanche 2 avril 61. Il est dans la ligne de prière. Et il parle à une personne qui se tient là debout. 217 Vous m'êtes étrangère. Je n'ai émis rien à votre sujet. Dieu vous connaît. Et s'il peut me révéler par son Saint-Esprit, le Christ ressuscité, qui est revenu ici, et me donner une résurrection temporaire par mon esprit, de sorte que mon esprit s'en aille maintenant et son esprit entre, pour vous montrer donc si oui ou non il est vivant. Maintenant, je n'ai émis vous connais pas. C'est moi. Moi et mon esprit, nous n'aimons vous connaissons pas, mais lui vous connaît. Mais il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis très heureux de le lui prêter, de le lui donner, pour tout ce qu'il peut en tirer. Remarquez, il dit, il désire emprunter mon corps pour prouver qu'il est le Christ ressuscité. Je suis très heureux de le lui prêter, de le lui donner, pour tout ce qu'il peut en tirer. Donc, ce n'est pas une chose déraisonnable que Dieu désire faire avec ses fils. Et rappelez-vous, Jésus est le modèle pour tous les fils. Une délivrance totale 59-07-1288, et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d'être des sujets du royaume de Dieu. 89 Il était totalement homme, il était totalement Dieu. Mais il a abandonné ses parties naturelles à son, et ses parties physiques, ses propres pensées, ses propres actions, ses propres soucis, et, je fais uniquement ce qui est agréable au Père. Voilà. Totalement délivré des êtres humains. Alors, comment on fait ça? L'apôtre Paul a dit au verset de Néhémie, vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et cette transformation commence par un ajustement de notre attitude et que nous nous humilions sous la puissante main de Dieu, comme nous le voyons au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. 5 Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. En d'autres termes, personne n'est au-dessus des autres dans cette famille, car nous répondons tous les uns aux autres et nous répondons tous à notre Père. Remarquez ce que Paul dit. Je vous encourage à marcher de manière digne ou d'une manière appropriée concernant la vocation par laquelle vous avez été appelé. Maintenant, il y a des vocations et puis il y a des occupations, à vocation en anglais, note du trad. Néhémie confondait pas les deux. Une vocation est-elle un penchant? Comment réponse à une convocation ou à un appel à entreprendre un certain type de travail? En particulier une carrière religieuse? Un appel. Un appel divin à une vie religieuse. Comparez cela avec le mot « avocation », « occupation », dont l'un inséré avant comme préfixe signifie « contre ». Et donc une invocation, une occupation, est-elle un détournement de votre vocation? Généralement, la vocation, l'occupation, est-elle une activité exercée en plus de sa profession habituelle? Par conséquent, nous pouvons voir que l'appel de l'apôtre Paul était celui d'un apôtre. C'était son appel ou sa vocation, mais son occupation était de faire des tentes. Ce n'était pas exactement un passe-temps, mais il aimait cette activité et, en l'exerçant, il a pu gagner de l'argent supplémentaire pour le ministère et se procurer le confort qu'il désirait avoir. Mais son premier amour, bien sûr, était l'appel par lequel il a été convoqué, et il a travaillé à son occupation pour soutenir sa vocation. C'est-à-dire pourquoi il pouvait se déclarer prisonnier du Seigneur. Pas par la force mais par l'amour de l'appel par lequel il a été convié. Et il a dit, « Je vous exhorte à aussi marcher d'une manière digne de votre appel. » Ensuite, l'apôtre nous explique comment marcher d'une manière digne de notre appel. Il dit au verset, « Deux en toute humilité, maintenant, l'humilité, c'est-à-dire d'avoir une humble opinion de soi-même, un sens profond de sa véritable petitesse. » Comme frère Branham quand il parlait de laisser un trou dans l'eau contenue dans un seau, et disait que c'était combien Dieu avait besoin de lui. Et non seulement, nous devons vraiment être humbles, mais il continue en disant, sourire, et douceur, et la douceur, c'est-à-dire être doux, puis il ajoute, avec patience, et cela signifie être patient. Et montrer de la lenteur à venger les torts, vous supportant les uns les autres, ce qui signifie se supporter. Et pour ce faire, il dit, avec charité. Et tout cela est-ce fait dans le but de trois vous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Arrêtons-nous ici un instant et parlons de cette unité de l'esprit. Parce qu'il nous dit que nous devons être humbles. Doux et disposé à nous supporter les uns les autres, afin de garder l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Remarquez qu'il parle de l'unité de l'esprit, puis il dit dans le lien de paix. En d'autres termes, le lien de paix est l'humilité, la patience et la douceur que nous projetons dans notre marche. Un homme qui est toujours prêt à se battre n'est pas un homme de paix. Et remarquez qu'il parle du lien de paix. Nous parlons donc de quelque chose qui lie les gens ensemble dans la paix. Un lien est-ce quelque chose qui ressemble à de la colle. C'est-ce ce qui tient les choses ensemble. Nous ne lirions ensemble avec de la colle, et l'unité de l'esprit se nie ou tient ensemble par le lien de la paix. Et ce lien de paix Néhémie ne vient pas de ce que les autres nous font ou font pour nous, mais il vient par la manière dont nous nous comportons avec les autres pendant notre marche. Ensuite, l'apôtre Paul délimite ce qu'il a dit au verset suivant où il ajoute « 4 Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Remarquez, s'il dit qu'il n'y a qu'un seul corps et qu'un seul esprit, alors nous Néhémie, devons pas nous considérer individuellement mais comme faisant partie d'un tout. Ce sont l'esprit est le même esprit, la même vie par laquelle nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et c'est le même esprit, qui a donné naissance au Fils de Dieu et qui donne une naissance au Fils de Dieu. Parce que tout revient au seul et unique vrai Dieu, par lequel nous sommes nés dans sa famille. Et puis Paul continue au prochain verset, en disant, cinq un seul Seigneur, et ce mot Seigneur est le mot curio, qui parle du souverain propriétaire. Ainsi, Paul dit qu'il n'y a qu'un seul propriétaire, puis il dit, une seule foi, et nous savons que la foi est la révélation de ce seul propriétaire. Par conséquent, Il dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et donc qu'une seule révélation de ce seul Seigneur, et donc seulement un seul baptême. Et ce seul baptême nous montre que ce seul Seigneur Esther, six un seul Dieu et Père de tous, qui Esther au-dessus de tous, car lui seul Esther souverain est parmi tous, car c'est Esther par lui et à travers lui que toute chose consiste. Et en tout, si vous êtes né de son esprit. Car si vous êtes né de son esprit Esther alors vivant en vous. Mais comme tout enfant né d'un même père, chaque enfant n'a pas une quantité égale de la constitution génétique du Père. Et donc Paul continue de dire au verset 7, « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée, et rappelez-vous, la grâce, c'est Esther le Père nous dotant d'aptitudes spirituelles spéciales, et il nous dit que chacun de nous est doté d'aptitudes spirituelles spéciales, selon la mesure du don de Christ. Ainsi, nous avons l'Esprit par mesure, mais Christ Jésus l'avait sans mesure. » Voilà ce que Paul dit. Et c'est Esther pourquoi William Branham pouvait nous dire que nous avons l'esprit avec mesure. Parce qu'il nous a dit ce que Paul nous a dit. Et puis au verset suivant, il nous dit comment on mesure ce don. 8 C'est Esther pourquoi il Esther dit, maintenant, qui Esther celui-ci qui dit? C'est Esther la même personne dont Paul parlait quand il a dit qu'il y a un seul Seigneur, et une seule révélation de ce seul Seigneur, et ce seul Seigneur Esther le seul vrai Dieu et Père de nous tous. Et nous savons que la Bible Esther remplie de cet enseignement d'un seul Seigneur tel que Moïse l'a enseigné, comme nous le voyons dans Deutéronome 6.4 écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, Esther le seul Éternel. Et Jésus a enseigné comme nous le voyons dans Marc 12.29 Jésus répondit, voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, Esther l'unique Seigneur, et l'apôtre Paul l'a enseigné dans Éphésiens 4.5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et dans Corinthiens 8.6 néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et bien sûr, nous savons que William Branham l'a enseigné, comme nous le voyons dans son sermon, Les oins du temps de la fin 65-07-25-M256 maintenant, remarquez, c'est Esther Jésus qui parlait. 257 et voici Paul, tout de suite après lui, qui dit, maintenant, dans les derniers jours, il viendra des gens religieux, vous voyez, ayant l'apparence de la piété. Et ils captiveront des femmes d'un esprit faible et borné, agitées par toutes sortes de passions mondaines. Et ils se demandent, ils disent, pourquoi Esther ce que vous rouspétez après les femmes? Oh, bonté! Mais, il n'aime, il le voit même pas. Il captive des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de passions de toute espèce, loin des choses, comme, de, vous voyez, et, de même que Jannès et Jambrès. Matthieu 24.24. Des faux Christ, des faux oins, qui font des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Or, de même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, ces réprouvés feront de même, d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la foi. Pas une foi. La foi. Une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul bap. Vous n'y pouvez pas avoir une seule foi sans croire en un seul Seigneur. Vous n'y pouvez pas avoir deux baptêmes. Pas un pour le Père. Et pour le Fils. Maintenant, revenons à Éphésiens 4. Étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. 9. Or, que signifie, il Esther monté, sinon qu'il Esther aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10. Celui qui est Esther descendu, C'est Esther le même qui est Esther montée au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11 Et il, Dieu, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? 12 Pour le perfectionnement ou finir d'équiper ou de préparer, ce qui Esther le processus de développement des saints et, en vue de l'œuvre du ministère. Maintenant le mot œuvre vient du mot grec ergon, qui signifie les véritables affaires du ministère, l'exercice du ministère, et tout cela Esther remit entre les mains de ses hommes et de l'édification, ce qui Esther le développement du corps de Christ. 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et remarquez qu'il dit l'unité de la foi. Ainsi, nous n'examinons pas l'unité pour le plaisir d'examiner l'unité ici, parce que cette unité de la foi Esther basée sur la connaissance du Fils de Dieu, et cette connaissance du Fils de Dieu nous amènera à l'état d'homme fait, à un homme qui Esther complètement équipé, préparé, arrivé à l'état de plein développement et prêt pour l'adoption, et à la mesure de quoi? De la stature, ce qui signifie la maturité parfaite ou complète de Christ. En d'autres termes, parvenir à la plénitude du caractère de Christ. En d'autres termes, il nous dit que, bien que nous sommes dotés d'aptitudes spirituelles dans une mesure, cependant, dans les limites de cette mesure se trouve le potentiel pour parvenir au même niveau de plénitude que le Fils de Dieu. Et nous savons qu'il avait reçu la plénitude en termes de conditions de fils et de compréhension de sa position et de sa relation avec le Père. Et remarquez comment cela vient. Il a donné au corps 5 dons pour parfaire le corps, ou pour amener le corps à la maturité afin qu'il reflète dans le corps la nature ou la stature mature, qui fut donnée en exemple dans la plénitude de son Fils Jésus-Christ. Et il nous dit que nous aurons ces saints dons dans l'église Éphésiens 4.13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et que cette unité de la foi est à la conséquence de la connaissance du ou de connaître pleinement le Fils de Dieu, que ces 5 dons prêcheront aux gens cette connaissance de Christ basée sur l'expérience, qui amènera les gens à l'état d'homme fait, à l'état d'un Fils de Dieu mûr et pleinement développé, à la même mesure de la stature parfaite ou à l'âge de responsabilité ou de maturité donné en exemple dans la plénitude de Christ. Nous voyons donc qu'il doit y avoir l'unité de la foi. Et remarquez, pas seulement une unité, mais l'unité, la seule et unique unité de quoi? De la foi. Car il n'y a qu'une seule foi et cette foi unique Esther la révélation du seul Seigneur. Et remarquez qu'il combine cette l'unité de la foi avec la connaissance du Fils de Dieu. Montrant que l'unité de la foi dépend des personnes qui reçoivent la connaissance du Fils de Dieu. Et cela Néhémie peut pas arriver sans un véritable quintuple don qu'il enseigne à l'Église. Par conséquent, à moins d'avoir la connaissance du Fils de Dieu, vous n'aurez pas la bonne révélation du seul Seigneur. Martin Luther, dans son commentaire sur Romains 10, dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» 10.14 Ici l'apôtre affronte l'arrogance de tous ceux qui enseignent faussement et sont d'un esprit hautain. Oh! Si seulement les faux prophètes ou docteurs tenaient compte de ces paroles. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? Sans prédicateur? 10.14 Même s'ils disent entendre, ils se vantent en vain. À moins qu'ils entendent des vrais prédicateurs, car entendre des faux prophètes et qui voient Néhémie pas entendre. Ils entendent et ils n'entendent pas, ils ont des oreilles, mais n'entendent pas et Néhémie prêche pas la parole de Dieu. Esther une déclaration frappante contre tous les auditeurs et étudiants prétentieux de la Bible. Comment prêcheront-ils, si Néhémie sont pas envoyés? 10.15 Cette déclaration Esther dirigée contre les docteurs vaniteux et les instructeurs arrogants. Ces 4 déclarations, 10.14-15, se suivent de manière telle que l'une conduit à l'autre. mais en sorte que la dernière déclaration forme le fondement sur lequel reposent les autres. Ainsi, 1. Il est impossible que ceux qui prêchent Néhémie soient pas envoyés. 2. Il est impossible que ceux qui entendent soient sans prédicateur. 3. Il est impossible qu'ils croient en celui dont ils n'ont pas entendu parler. 4. Il est impossible qu'ils invoquent celui en qui Néhémie ne croit pas. À cela, ajoutez une dernière chose, à savoir, 5. Il est impossible que ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur soient sauvés. Alors, toute la source et l'origine du salut reposent sur cela, que Dieu envoie quelqu'un, un vrai ministre de la parole. S'il en envoie pas, tous ceux qui prêchent, prêchent faussement, et leur prédication n'estère pas du tout de la prédication. En fait, ils seraient mieux lotis s'ils n'avaient jamais prêché du tout. Alors ceux qui entendent, entendent l'erreur, et il serait mieux pour eux de Néhémie pas avoir entendu. Alors ceux qui croient, croiraient une fausse doctrine, et il serait mieux pour eux de Néhémie pas croire. Alors aussi ceux qui l'invoquent invoqueront faussement un faux seigneur, et il serait préférable pour eux de Néhémie pas invoquer, pour ses prédicateurs de Néhémie pas prêcher, pour ses auditeurs de Néhémie pas entendre, pour ses croyants de Néhémie pas croire, et pour ceux qui invoquent de Néhémie pas invoquer, et ils seront condamnés car ils seraient sauvés par le mensonge. Ainsi, nous lisons dans Proverbe 1.28 « Alors ils m'appelleront, et je Néhémie répondrai pas, ils me chercheront, et ils Néhémie me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Alors, s'Esther, seulement ceux qui peuvent prêcher avec certitude, qui proclameront l'Évangile sans erreur. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile de paix, 10.15. Par cette citation, l'apôtre montre que les seuls qui peuvent prêcher sont ceux qui sont envoyés par Dieu. Ceux qui Néhémie peuvent pas prêcher la parole divine et être des messagers de Dieu sont ceux qu'il n'a pas envoyés et à qui il n'a pas confié sa parole. Donc, par ces mêmes paroles, l'apôtre souligne la nature de la paix spirituelle et de ses dons. Ces bénédictions Néhémie sont entendues que dans la parole divine et Néhémie sont appréhendées que par la foi. Ils Néhémie peuvent pas être présentés sous forme visible. Maintenant, le mot beau représente la pureté, et je voudrais ajouter que, selon la concordance Strong, ce mot signifie appartenant à la bonne heure ou saison opportune et par application, être prospère. Maintenant, le monde a essayé d'unifier les hommes à travers les âges, par tous les plans que les hommes ont pu trouver, et cela n'a jamais fonctionné. Et j'ai bien peur qu'ils essaient toujours de le faire, même parmi nous dans ce message. Dans ce message, ils essaient d'avoir, entre eux, des réunions visant à s'unir, mais cela Néhémie fonctionnera jamais. Qu'est-ce que cela peut produire si ce n'est quelque chose de charnel, à moins que Néhémie fonde cette unité sur la foi. Maintenant, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en être convenus? Cela signifie que si deux personnes tentent de marcher ensemble, il ferait mieux de se mettre d'accord sur leur destination et comment ils vont y parvenir. Parce que si l'un pense que la route est à droite tandis que l'autre pense que la route est à gauche, alors il n'y a aucun moyen d'arriver à destination même si vous pouvez avoir la même destination en tête. Écoutez, le musulman pense qu'il ira au paradis, et le catholique pense qu'il ira au ciel, et le baptiste pense qu'il ira au ciel, et s'Esther la même chose avec le pentecôtiste et le méthodiste. Et en fait, chaque religion qui croit en Dieu, croit aussi en un ciel dans lequel les hommes finiront s'ils vivent selon les règles et les credos de cette religion. En fait, le principal objectif de la plupart des religions n'est pas de savoir s'il existe ou pas un ciel, mais ce qui sépare toutes les religions, c'est le chemin pour y arriver. Maintenant, Jésus nous a dit qu'il n'y a qu'une seule façon pour pouvoir atteindre le Père et s'extraire à travers lui. Jean 14.6 Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est mis vient au Père que par moi. » Et comment cela? Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Et s'ils n'aiment, ils n'ont jamais vu, comment vont-ils le connaître? Jean 1.18 Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui Esther dans le sein du Père, Esther celui qui l'a fait connaître. Donc, la seule façon de connaître Dieu, c'est Esther par la déclaration que le Fils de Dieu nous a donnée concernant le Père. Et c'est Esther pourquoi personne n'est mis connaît le Père à moins qu'il n'ait mis connaisse d'abord le Fils. Mais s'il n'est mis croit même pas que le Fils était bel et bien Fils, alors comment pourrait-il connaître le Père? Matthieu 11.27 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne n'est mis connaît le Fils, si ce n'est Esther le Père. Personne non plus n'est mis connaît le Père. Luc 10.22 Si ce n'est Esther le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous parlons donc de la révélation, et c'est Esther ce dont Paul parlait quand il parlait de l'unité de la foi, qui Esther l'unité de la révélation de Jésus-Christ. Dans Jean 2.23 on nous dit, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, n'émis fait pas non plus l'écho du Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Maintenant, le mot « né » signifie « s'y renoncer » ou « né » mis pas tenir compte de ». Donc, ces gens qui supprimeraient le Fils de Dieu après son ministère terrestre et disent que tout Esther est devenu Dieu, ils renoncent et suppriment le Fils de Dieu, et ainsi ils n'ont pas non plus le Père. Et comment pouvez-vous construire une unité sur une telle chose? Jésus nous a dit dans Jean 5.23 « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père ». Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et ce mot honorer a été traduit du mot grec timao, qui signifie donner une estimation ou accorder une valeur à. Jésus nous dit que les hommes devraient lui attribuer une valeur, comme ils le font pour le Père. Donc, s'ils n'aiment et le font pas, alors ils n'ont pas correctement divisé la parole de vérité, et ils n'honorent pas le Père, car ils n'honorent aucunement le Fils. Alors, autour de quoi veulent-ils s'unir? Frère Branham dit dans son sermon, le super signe 20-29 novembre 63-80 aujourd'hui, nous nous disons, eh bien, alors, si nous pouvons tous nous rassembler, dans l'unité, il y a, ou dans un conseil, le salut Esther dans le grand nombre des conseillers. 81 C'est Esther vrai? Mais quel genre de grand nombre recevez-vous conseil? Comment pouvez-vous marcher ensemble? Comment pouvez-vous rassembler ces dénominations? Certaines croient, d'autres n'y croient pas, d'autres encore font semblant de croire. Comment allez-vous les rassembler et marcher ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Paul nous a dit qu'il n'y a qu'une seule voie vers l'unité, et il l'a appelé l'unité de la foi. Et j'ai parcouru le monde et me suis rendu dans 56 pays en essayant d'unir l'épouse de Christ par la révélation de Jésus-Christ, car c'est la seule unité qui produira la stature de la plénitude de Christ dans l'épouse. Parce que c'est la seule chose que Paul a dit qu'il le ferait. Et j'ai vu des frères qui étaient tellement désorientés, qui adoraient le messager, se repentir et recevoir la révélation de Jésus-Christ et de sa présence et sont entrés dans l'unité de la foi et comprennent ce que signifie devenir un fils de Dieu à l'image de notre frère aîné Jésus parce qu'ils se sont repentis et ont embrassé la seule révélation qui apportera l'unité de l'esprit. Et ils ont parcouru des milliers de kilomètres à l'arrière d'un camion à bestiaux à 70 personnes par camion pour entendre la révélation de Jésus-Christ. Et j'ai vu des églises entières marcher sur 26 kilomètres à travers les jungles et franchir des montagnes juste pour entendre la révélation de Jésus-Christ. D'autres ont voyagé tout un mois sur le fleuve Congo, et ont commencé par pirogue, puis sont montés à bord d'un bateau puis d'une péniche pour venir aux réunions sur la révélation de Jésus-Christ, et d'autres encore ont voyagé par bus pendant des jours et des semaines juste, pour entendre la révélation de Christ, parce qu'ils veulent être unis à Christ. Mais je reviens ici en Amérique, et la seule unité qu'ils veulent, c'est celle de leurs organisations et de leurs credo. Mais si vous enseignez la révélation de Jésus-Christ et la connaissance du Fils de Dieu, ils n'y sont pas intéressés et ils n'y veulent pas de vous. Et je pose la question, pourquoi? Parce qu'ils essaient de s'unir par un autre programme que celui de Dieu et cela n'y produira jamais l'unité. Et pourquoi n'accepteront-ils pas le seul programme de Dieu qui apportera la vraie unité? Parce qu'ils sont ordonnés à n'y pas l'accepter. Saint Jean nous a dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Vous devez donc marcher dans la lumière comme lui, Dieu, marche dans cette lumière. Vous n'y pouvez pas le faire dans une lumière qui n'estère pas la lumière de sa présence. Frère Branham a dit dans son sermon, qui dites-vous que s'estère? 64-1227, 57 Je me demande, aujourd'hui, si nos prières, vous les entendez dire, priez pour un grand réveil. Priez pour ceci. Priez pour une effusion. Priez pour l'unité. Je me demande, si Dieu envoyait un tel programme, si nous l'accepterions. Je me demande vraiment si nous accepterions ce qu'il nous envoie. Vous voyez, la raison pour laquelle nous prions pour ces choses, c'est-à-dire que nous savons que c'est-à-dire un besoin. Mais, quand Dieu l'envoie de la manière qu'il le veut, alors ce n'est-à-dire pas à notre goût, et c'est-à-dire pourquoi nous n'y voulons pas le recevoir. Et c'était comme ça à cette époque-là. S'il n'était pas à leur goût, conforme à leur croyance et à leur ils n'y voudraient pas le recevoir encore aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais partager cette citation de frère Branham concernant la seule façon de s'unir. Le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu dîme 25 avril 65 44 et, maintenant, nous voyons cette religion forcée se dessiner clairement. Donc, pour rassembler tous les petits groupes dans une grande unité, comme il l'appelle. Les uns croient telle chose, les autres croient telle autre chose. Et certains renient ceci, d'autres cela. La Bible dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? S'ils n'y sont pas d'accord? Car on ne sait que ça n'y marchera jamais. Nous devons être en accord. Et quel? En accord avec quoi? Pas en accord l'un avec l'autre, mais en accord avec la parole. Avec Dieu autant que nous devons l'être. Voilà avec quoi il faut être en accord. Car on ne sait cela. Nous voyons donc qu'une unité forcée était représentée par les groupes de gens à Babylone. Dieu n'y peut pas mettre son nom dans une telle chose. Il n'y l'a jamais fait. Et il n'y le fera jamais. Bien que les gens essayent d'obtenir ça. Ils ont mis leur nom dans cela et ils y ont mis son nom. Ce n'est pas ça. Car on ne sait mais nous devons trouver où il a mis son nom. Car c'est là le lieu et le seul lieu auquel il a pourvu pour que les chrétiens viennent, les enfants qui croient, et l'adorent en ce lieu. Quel est donc ce lieu? Pour appuyer cela, nous pourrions prendre toute la Bible pour soutenir ce que je vais dire. Car le lieu qu'il a choisi, c'est en Christ. En Jésus-Christ, c'est-à-dire en lui, son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Inclinons nos cœurs et nos têtes dans un mot de prière. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, décembre 2019. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.